Bien, nous voici donc maintenant arrivés à la 13e leçon, la leçon de conclusion de ce voyage à travers la pensée complexe de à la fois simple et complexe, complexe dans sa formulation, peut-être simple par certains côtés. Alors, malgré les quelques 8 siècles qui en séparent le thème, le cours de cette année se situe dans la droite ligne logique du cours de l'année précédente, qui était consacré au roman du Genji. Le choix a été la conséquence de plusieurs raisons. Tout d'abord, le cours de l'année 2019-2020 aurait dû être le dernier du titulaire de la chaire philologie de la civilisation japonaise, votre serviteur. Il se devait donc de représenter ce qui aurait été le plus proche possible d'une conclusion des précédentes 8 années d'enquête portant sur la relation langagière sino-japonaise comme dynamique de l'histoire de la culture japonaise. Malgré les tentatives somme toute compréhensibles et attendues de remettre en question cette relation wakan que certains voudraient minimiser ou dénoncer comme construction idéologique a posteriori, il reste que les faits sont têtus et qu'il est difficile d'ignorer que la dernière période de l'histoire culturelle japonaise avant la modernisation occidentalisante de Meiji, entre 1700 et 1850 environ, est marquée à la fois par une incomparable floraison des lettres chinoises, le Kanbun et le Kanshi, au Japon, et une vigoureuse réponse des lettres japonaises, proprement japonaises, d'expression japonaise, à la fois dans la littérature romanesque ou théâtrale de distraction, dans la poésie, évidemment l'exemple du haïku est le plus connu, mais là on assiste aussi à la renaissance de styles archaïsants. Et c'est dire que le dernier âge du développement, pour ainsi dire indépendant, au moins dans des conditions d'interaction considérablement réduites si l'on compare à d'autres aires culturelles, donc le développement plus ou moins indépendant en vase clos de la civilisation japonaise, loin de s'éloigner du modèle culturel qu'il avait vu naître, semblait au contraire n'intensifier plus que jamais auparavant. Et plus que jamais auparavant, la vie intellectuelle japonaise semble divisée entre ces deux orientations langagières, de façon extérieure. Comme on peut s'y attendre, les choses ne sont pas aussi simples. Et les relations entre les deux facettes de la culture japonaise de l'époque sont profondes, mais ne peuvent souvent être mises en lumière qu'après un examen qui plonge en profondeur dans les soubassements où wa et kan se rencontrent. C'est pourquoi le choix de l'un des plus illustres lettrés de la toute dernière fin de l'époque d'Edo apparaissait comme inévitable. Motoori Norinaga, donc 1730-1801, est encore un écrivain célèbre au Japon. Plusieurs de ses œuvres, mais non les mêmes au fil des générations, les éditeurs changent de titre au fil du temps, sont toujours disponibles dans les grandes éditions de poche populaire. Célèbre, certes, mais peut-être certainement Norinaga, mais peut-être pas pour les raisons les plus justes. Ses admirateurs, comme ses adversaires, le louent ou le dénigrent comme l'un des promoteurs les plus ardents du nationalisme japonais et de ses conséquences désastreuses comme responsable, donc l'un des responsables, pour le Japon du XXe siècle. Et il est indéniable que ceux qui ont réellement contribué à l'expression politique du pouvoir impérial à l'intérieur et de la suprématie japonaise en Asie à l'extérieur se situent souvent dans sa lignée intellectuelle. À commencer par son émule le plus direct, Hirata Atsutane, 1776-1843. Mais en tant que le plus illustre représentant de ce que l'on appelle les études nationales, Kokugaku, Motoori Norinaga doit avant tout être considéré comme ce qu'il est véritablement, un philologue passionné, sans doute au-delà du raisonnable, qui consacra sa vie à élucider les textes anciens. Et c'est en tant que tel que nous avons tenté de suivre le développement de ces idées. Le saut du Genji à Norinaga, que nous avons fait, s'explique par le fait que ce philologue a consacré le plus clair de sa longue vie d'étude à 2 ouvrages majeurs, le roman du Genji d'abord, et ensuite et parallèlement le Kojiki, qui devint cependant le centre de ses travaux. Bien qu'il n'eût jamais abandonné le roman du Genji, relisons-le encore une fois. Il est cependant indéniable qu'après sa rencontre décisive avec Kamo no Mabuchi, cette nuit mémorable où il a changé d'orientation, Nolinaga changea la priorité de ses intérêts pour se consacrer à un texte relativement méconnu des lettrés japonais et dont il contribua à faire un véritable texte sacré de la tradition japonaise reconstitué par l'école philologique qu'on pourrait appeler le Kokuyaku. Il s'agit bien sûr du Kojiki. C'est ce transfert d'intérêt qui nous importait de comprendre. On aurait pu en effet comprendre que Nolinaga, en une sorte de conversion intellectuelle, se consacra au Kojiki en renonçant désormais au Genji, considéré comme un genre littéraire frivole, mineur, trompeur en regard de la théogonie du Kojiki, qui fondait aussi la lignée impériale solaire. Mais il n'en est rien. Et le fait que Nolinaga ait poursuivi ensemble les deux études, bien que ses travaux sur le Kojiki eussent été bien plus importants en quantité, montre qu'une œuvre étayait l'autre et qu'il cherchait dans la seconde la justification essentielle de la première. Il y a donc un lien profond entre les deux. Et c'est ce qui était esquissé dans la relation qu'avait faite Kobayashi Hideo. Nous avions vu ça à la première leçon, n'est-ce pas ? Enfin, au début du cours, en tout cas. Dont la biographie de Motori Nolinaga en 1977 avait été à l'origine d'une vague d'intérêt pour cet auteur, de sa rencontre avec Horikuchi Shinobu. Vous vous souvenez que Horikuchi Shinobu aurait dit à Kobayashi Shigeo, encore jeune, Horikuchi Shinobu déjà âgé, avec le jeune érudit, que pour comprendre Nolinaga, enfin il l'avait dit d'un mot, Nolinaga, pour comprendre Nolinaga, oui, c'est le Genji, n'est-ce pas ? Et pas le Kojiki. Nous avons donc décidé de prendre au sérieux l'affirmation de Horikuchi, qui est en quelque sorte à l'origine de ce cours. Nous pensons avoir, au fil des lectures, graduellement mis en lumière la façon dont Nolinaga fit ressortir ce qui était selon lui les caractéristiques du Genji, caractéristiques irréductibles aux influences continentales, pour en chercher la source dans la révélation du Kojiki et la tradition qui en était issue. Précisons d'emblée que ce qui se présente dans l'esprit de Nolinaga comme la solution définitive du dilemme Wa-Kan, par la sacralisation exclusive du premier terme, le Wa, donc le Japon, contre la Chine, n'est en réalité que l'illustration paroxystique, Kiwami, du procédé historique d'occultation du subassement sinoglossique de la langue. Nous pouvons sans doute présenter de la façon suivante, en une douzaine de degrés, 11 exactement, ce n'est pas conforme au plan des exposés des grandes écoles, mais je suis désolé, je pense que ce sont 11 points importants. Nous pouvons donc présenter dans cette douzaine de degrés l'enchaînement de la réflexion exégétique de notre auteur. Le premier degré sera l'opposition, donc dans le cadre de l'opposition Wakan, le Yamato Damashi au Karagokoro. Entre Yamato Damashi, donc la lame japonaise, et le Karagokoro, le cœur, la mentalité chinoise. On ne sera pas surpris de constater que la démarche de Nolinaga s'inscrit pleinement, entièrement dans la dialectique sino-japonaise. La relation Wakan, que nous avons défini comme le principe dynamique de l'histoire de la civilisation japonaise. Le développement de sa pensée doit se comprendre comme une tentative exacerbée de rompre ce lien ontologique en construisant la tradition d'une voie japonaise préexistante et qui n'est pas désignée comme voie. Il se fonde donc sur la dichotomie de toujours, exemplifiée à maintes reprises dans le Genji Monogatari, entre le cœur japonais, Yamato Gokoro, et le génie chinois Karazae. On remarquera d'ailleurs qu'il emploie de façon relativement rare, Nolinaga, l'expression âme japonaise, Yamato Damashi, dont il est considéré comme étant le chantre par les générations postérieures, et généralement compris comme étant une appellation plus virulente de l'âme patriotique, ce qui n'est pas du tout le cas. Les deux composés se trouvent déjà dans le Genji Monogatari, et Nolinaga ne fait que suivre une antique habitude en les reprenant, semblant d'ailleurs employer plus volontiers lui-même Yamato Gokoro que Yamato Damashi, contrairement à ce qui a été fait à l'époque Meiji. Il est en revanche plus original pour l'entité antagoniste, le génie chinois, que l'on pourrait traduire aussi par le savoir-faire, le kalazai, n'est-ce pas ? Le savoir-faire, la technique chinoise ou la sagesse chinoise. En présentant cette opposition non pas comme une confrontation internationale, mais comme un dilemme au sein même de la culture japonaise. L'adversaire de Norinaga n'est pas en effet la Chine en tant que telle, la culture chinoise et les Chinois, mais les Japonais qui sont imbus de cette culture. Possédés qu'ils sont du kalagokoro, terme qu'il utilise à satiété pour vilipender ses patriotes et que l'on pourrait traduire, que j'ai traduit en tout cas, par mentalité chinoise. On prendra garde au fait d'ailleurs que Kokoro, dont le composé Yamato Kokoro, est le plus souvent écrit par lui avec le sinogramme, le caractère chinois Shin, n'est-ce pas ? Shin en chinois. Alors que dans Kalagokoro, il s'agit le plus souvent du sinogramme I, le I de Ishiki, Yi en chinois. Où l'on voit le rôle décisif chez ce puriste de la langue écrite chinoise comme glose du japonais. Il n'en est pas à ce paradoxe près. Il n'est pas non plus sans intérêt, mais cela devra être développé dans un autre cadre, en plus des remarques finales, de rappeler que Shin correspond le plus souvent au sanskrit bouddhique Chitta et I à Manas et Vijnana, les termes sanskrits qui sont derrière ces termes chinois. Malgré les apparences et sa postérité, il n'y a pas d'animosité particulière de Norinaga à l'égard des Chinois ou des Coréens en tant que tels. La seule mention que nous ayons trouvée d'une rencontre directe avec un Coréen, décrit sans ambiguïté, une mention explicite, donc, révèle une curiosité de bon aloi entre deux personnes curieuses de leur culture réciproque. Je vous l'ai dit la dernière fois, n'est-ce pas ? Où, manifestement, Norinaga a compris un peu de travers, mais a quand même suivi ce que lui expliquait son interlocuteur coréen sur l'équivalent des lectures Kun et On, que lui interprète comme une équivalente, un ordre hiérarchique. Alors, c'est encore une fois, nous sommes dans la plus pure hiéroglossie, c'est-à-dire qu'il pense que les Coréens utilisent les lectures phonétiques dans un sens noble et les lectures coréennes, les lectures donc explicatives, dans un sens populaire, ce qui n'est pas le cas. Mais enfin, bon, ceci est une autre histoire. Donc, la tête de Turc de Norinaga, ce ne sont ni les Coréens ni les Japonais, ce sont ses compatriotes, ceux qui portent et colportent la mentalité chinoise, alors qu'ils devraient se tourner vers la voie japonaise. Déjà ici, nous pouvons trouver une certaine communion de pensée, que nous avons déjà relevée, entre Norinaga et Tominaga Nakamoto, qui est mort lorsque lui avait 16 ans et qu'il a certainement connu, et qui dénonçait déjà la dépendance sinotropique des lettrés japonais, confucianistes et même shintoïstes, n'est-ce pas ? Il dénonce cette espèce d'occultisme, d'ésotérisme shinto-bouddhique que Norinaga aussi ne manque pas de vilipender. Le point de départ de la démarche de Norinaga est donc le désir de débarrasser l'esprit japonais de la mentalité chinoise pour le rendre à sa simplicité primitive. Dans sa propre quête, comme dans la démarche philologique qu'il proposera à ses disciples, la première étape sera le Genji Monogatari, ce qui nous amène à notre deuxième point. Donc, chronologiquement et méthodologiquement, le roman du Genji est une œuvre maîtresse dans l'élaboration de la vision sacramentelle, initiatique, de la langue japonaise qu'a conçue Norinaga. Nous avons vu que la première partie de sa vie intellectuelle s'est conclue en 1763 par la rédaction de son livre sur l'essentiel du roman de Murasaki Shikibu, donc le Shibun Yoryo, qui précède immédiatement son tournant méthodologique vers le Kojiki. Il est cependant resté si fidèle à ses positions de jeunesse qu'il en a inclus le texte entier de cet opuscule dans l'introduction de sa somme bien plus tardive, l'avant-dernier de ses grands ouvrages, le précieux petit peigne du Genji, Genji Monogatari Tama no Ogushi. Il a fait la même chose, vous l'avez vu, pour le Naobi no Mitama, qu'il a inclus dans le Kojiki Den. Nous en avons donc lu de larges extraits de cet opuscule, car Norinaga est en général peu enclin à écrire de longs développements théoriques, préférant le plus souvent la glose philologique. et nous trouvons dans ses pages, très redondantes, comme à son habitude, ce qui se rapproche le plus d'un exposé systématique de ses idées sur le livre. On se doute bien que notre propos n'était pas d'aller chercher chez Nolinaga la confirmation de nos hypothèses, que nous estimons par ailleurs suffisamment étayées, sans avoir besoin de faire appel à un commentateur distant de 8 siècles. Et d'ailleurs, ce n'est pas à Nolinaga qu'il aurait fallu demander de l'aide. Mais bien plutôt de comprendre comment le philologue national admirateur du roman comme monument de la langue et de l'esprit japonais parvenait à contourner les évidentes influences continentales du Genji, tant chinoise que bouddhique. Il fallait aussi comprendre comment cette étape préliminaire préparait le passage au Kojiki. Chacun sait que Nolinaga eut un rôle décisif dans l'interprétation du Genji au Japon d'abord, puis hors du Japon, lorsque l'œuvre connut une diffusion mondiale, en établissant comme principe moteur de la narration, principe à la fois psychologique et esthétique, le mono no aware, l'empathie, n'est-ce pas ? Ici encore, comme pour le Yamato Gokoro et le Yamato Damashi, Nolinaga reprend un terme déjà bien attesté depuis le Moyen-Âge et défini de longue date comme l'essentiel de la poésie, ainsi que le dit ce poème de Shunze du XIIe siècle que nous citons pour la troisième fois, « Sans l'amour, le cœur humain n'existerait point. C'est par lui aussi que nous connaissons l'empathie. » Diversement traduite autrefois par poignance des choses, mélancolie des choses, puis émotion des choses, il est sans doute mieux exprimé par la traduction actuelle, ce terme de mono no aware, est sans doute mieux exprimé par la tradition actuellement plus courante d'empathie. Je voudrais aussi parler dans un article de Michele Marra, qui est malheureusement décédé maintenant, dans un article que je citerai plus bas, il glose mono no aware comme Intersubjective Model of Communication, un modèle intersubjectif de communication, ce qui est difficile à mettre dans un poème, mais qui est une définition tout à fait pertinente et qui correspond bien à la lecture que nous en avons faite, n'est-ce pas ? Donc, cette traduction est plus courante d'empathie correspond bien à ce mono no aware, à condition d'avoir à l'esprit l'étymologie grecque originelle, empatheia, où le préfixe implique un mouvement dirigé vers l'intérieur d'un objet et bien rendu par l'allemand Einfühlung. Si aware signifie le plus souvent sentiment de pitié, de sympathie, de compassion, ou plus généralement une émotion prenante, le premier terme mono fait difficulté si on le prend dans son sens ordinaire d'objet, chose, et même dans le sens plus général d'être vivant, inspiré du bouddhisme, qui là aussi, nous allons le voir dans un instant. Les pages que consacre Nolinaga à ce terme nous invitent à prendre mono dans un sens assez différent, non pas chose ni être, même objet comme dans complément d'objet, au sens grammatical donc, qui en fait une sorte de directionnel, de signe du transitif, indiquant que l'action se porte sur quelque chose que l'on peut prédiquer. Ce n'est qu'en tenant compte de ce sens grammaticalisé de mono que l'on peut comprendre le sens de lequel Nolinaga l'a employé et qui lui a permis d'esquisser une véritable théorie du roman d'abord et de la création littéraire en général. Mono no aware nomme en premier lieu l'empathie de la romancière à l'égard de ses personnages. Elle décrit cette empathie qu'elle éprouve elle-même, je parle de Murasaki Shikibu, n'est-ce pas, comme étant l'empathie entre les personnages de son roman. C'est bien elle qui la projette ainsi dans sa création et la condense dans les poèmes qui soulignent leurs sentiments. Par là, elle communique cette empathie au lecteur, qui participe donc à la fois des sentiments des personnages et de la romancière. Il s'agit donc d'un lien essentiel qui relie l'imaginaire de la narration à la réalité, le roman et la vie. Nous voyons donc que Nolinaga, en mettant le mono no aware, l'empathie, au centre du Genji et des préoccupations de la romancière, trouve ainsi le moyen d'évacuer de l'œuvre toute intention morale, ce qui est en définitive son intention profonde et ce sur quoi il revient souvent. Faire du Genji une œuvre édifiante au nom de quelque morale que ce soit, bouddhique ou confucianiste, serait le remettre forcément dans une orbe sinocentrique, ce qu'il se doit d'éviter. en mettant ainsi entièrement l'œuvre dans une dimension psychologique, esthétique et littéraire, il se donne les moyens de l'approfondir entièrement comme expression langagière dont la validité sera fondée sur l'antiquité japonaise exprimée, trouvée dans le Kojiki. Si la raison a sa ruse, le langage, qui est aussi raison si l'on en croit le grec, a tout autant la sienne, du moins ceux qui l'utilisent. Et tout spécialement Norinaga, qui, nous l'avons déjà remarqué, sous la personne du philologue de la pureté primordiale de la langue japonaise, résonne en réalité comme les lettrés de son époque, imprégnés qu'il est autant de lettres chinoises que des japonaises. Nous avons déjà relevé de nombreux exemples de cette bidimensionnalité, qui est bien sûr l'essence de la culture japonaise chez Norinaga. Ils sont à des degrés différents, évidents pour ceux qui le lisent attentivement. Mais il semble que l'on ait jusqu'à présent jamais bien remarqué, clairement remarqué, l'un de ces liens sémantiques dissimulés et pourtant très forts, qui soutient et justifie le choix de Mononohare comme concept central du Genji. Et il faut bien sûr avoir présent à l'esprit que ce n'est pas un concept qui a été élaboré par Norinaga, mais simplement repris par lui. C'est-à-dire que le fait que le bouddhisme n'y soit pas présent dans sa pensée n'indique nullement qu'il n'ait été présent à l'origine chez les gens qui l'utilisaient, en particulier Shunzei. N'est-ce pas ? Nous avons vu Mononohare. Shunzei était moine bouddhique. Il était pétri de dogmatique Tendai. Je ne reviens pas là-dessus, nous en avons parlé en son heure lors du cours sur les poèmes bouddhiques dans les corpus, dans les anthologies impériales japonaises. Shunzei est un moine, en tout cas un dogmaticien, un scolastique du Tendai, et c'est dans ce sens qu'il faut voir. Donc, lorsque Shunzei emploie Mononohare, il a bien à l'esprit ce que nous allons dire. Norinaga, qui est un grand lettré aussi, là aussi, mais il a aussi la même interprétation derrière, dans un coin de sa tête, si j'ose dire. Mais il ne le fait pas apparaître à la surface, comme beaucoup d'autres termes qu'il utilise. Donc, Norinaga a utilisé ce terme de Mononohare, cette empathie, pour oblitérer la dimension sino-bouddhique du Genji, en éliminant toute intention morale. Et pourtant, il ne faut pas oublier que le déverbal aware de awaremu est une lecture explicative possible du caractère chinois qi, qui est dans le composé jihi. Bon, je ne vais pas l'écrire au tableau, je pense que tous les japonisants le connaissent. Pour ceux qui ne sont pas japonisants, il suffit donc de me croire sur parole pour l'instant. Donc, le composé jihi qui signifie compassion au sens bouddhique, et qui traduit le sanskrit karuna, le sanskrit donc par compassion, que vous avez encore quand vous regardez les panneaux en hindi en Inde du Nord. Veuillez faire quelque chose, please, n'est-ce pas, c'est karuna. Donc veuillez avoir la compassion de faire quelque chose. Et le composé jihi, d'ailleurs, le composé donc indiquant la tsebe en chinois, n'est-ce pas, la compassion bouddhique, est glosé à l'époque moderne comme itsukushimi awaremu. Encore, dans n'importe quel dictionnaire de kanji vous donnera cela. Et vous avez aussi le composé hiai, qui veut dire la compassion, le voisin, ou vous avez le caractère ai qui est utilisé couramment maintenant pour awaremu. Donc, nous avons bien, il est certain que awaremu, à l'époque de Shunzei, lorsque le mononohare de Shunzei a aussi ce concept de awaremu, et le koisezumba, si on ne connaît pas l'amour, sans l'amour, on n'est rien du tout, dit un peu en quelque sorte Shunzei, on n'est pas, en tout cas, on n'est pas capable d'apprécier la poésie et la littérature du Genji. Donc, on peut dire que, consciemment ou non, Norinaga a, pour effacer toute connotation bouddhique du roman du Genji, a choisi de prendre la lecture explicative japonaise aware comme substitut de jihi. Et pour nous, modernes, rendre mononohare par compassion serait afficher sa dérivation bouddhique. Il vaut donc mieux parler de sympathie, d'empathie ou simplement d'émotion. Si on disait compassion, on vendrait un peu la mèche, n'est-ce pas ? Parce que ça nous mettrait tout de suite dans le terme bouddhique. Il est intéressant de voir que tout le monde évite soigneusement de se traduire à Mononawale par compassion. Parce qu'on est victime, en quelque sorte, de cette rupture de lien, n'est-ce pas, de cette solution de continuité faite depuis Motoni Norinaga et aussi par les spécialistes de littérature japonaise, japonais d'abord, étrangers ensuite, enfin non japonais ensuite, qui refuse cette lecture bouddhique. Et évidemment, Mononawale, c'est bien plus pratique de l'utiliser que donc, l'empathie, tout ce que vous voulez, plutôt que compassion. Cette association sémantique, donc, elle est plus souvent ignorée, non pas délibérément, mais parce qu'il apparaît invraisemblable de l'établir. Et Norinaga, qui a lu tous les grands recueils exégétiques concernant le Genji, on connaissait bien sûr les interprétations bouddhiques qu'il se doit, c'est dans la nature même de sa méthode, de considérer comme aberrantes. Le bouddhisme, dans le Genji, ne s'exprime pas tant par le sentiment de l'impermanence, qui est bien sûr omniprésent, mais par la compassion de la romancière à l'égard de ces personnages livrés au jeu dévorant du désir amoureux, ce koshoku, n'est-ce pas, cette érotomanie, cette iromanie qui l'émeut. C'est d'ailleurs ce qui a justifié que l'on imagina plus tard qu'elle fût en réalité une manifestation du Bodhisattva Kannon, symbole même de la compassion bouddhique. Par le recours au Mononawale, Norinaga objectivise en quelque sorte cette compassion subjective qui devient un moteur littéraire. Mais le lien métalangagier se restitue sans peine lorsque l'on prend en considération les caractères chinois latents, c'est-à-dire l'environnement sinoglossique du terme. On retombe alors sur jihi. Il faudrait donc s'interroger à cette lumière sur un autre sens possible de mono, bouddhique celui-là, le sens plein, n'est-ce pas, comme dans l'expression yorozu no mono, bambutsu, c'est-à-dire les êtres vivants, un terme qui est synonyme dans le bouddhisme de shujo, les êtres vivants. Donc, Bambutsu no shishi, no jishi, c'est mono no awade. Bon, je ne voudrais pas avoir l'air d'un prédicateur bouddhique, mais il me semble qu'on ne peut pas passer à côté de ces liens évidents. Notons enfin, et surtout, ils sont défaits chez Norinaga, mais ils étaient bien présents chez Junzei. Notons enfin, toujours à propos du Genji, que l'une des conséquences de la méthode historique et philologique de Norinaga est l'élaboration d'un canon littéraire japonais en regard du canon littéraire chinois et du canon bouddhique. Après Keiichu et Mabuchi, Norinaga y met la dernière main et prépare ainsi le concept de littérature japonaise de Kokubungaku de Meiji, qui peut, cette fois, en face du prestige nouveau des lettres occidentales, mettre en ordre de bataille un canon purement japonais. Je renvoie ici aux belles études de Manuel Lozon, n'est-ce pas, sur le concept de littérature au Japon, accessible en français. Il y a une bibliothèque entière maintenant à ce sujet. Ici encore, il est le point d'aboutissement d'une longue tradition, Norinaga, n'est-ce pas, datant même d'avant Fujiwara Teika, qui en fut certainement le principal artisan. On ne saurait donc imputer l'invention d'un canon littéraire japonais pur, c'est-à-dire en langue japonaise, à la simple nécessité de contrebalancer la culture occidentale. Il s'agit en premier lieu d'une étape nécessaire dans la relation hiéroglossique wa-kan menée à son terme. Ce serait une illusion d'optique d'ignorer la période pré-moderne dans cette histoire. Il faut cependant remarquer que la place du Genji dans ce canon, qui correspond simplement à la liste des œuvres dont Norinaga considère l'étude indispensable aux aspirants philologues, apparaît fluctuante. Il semble que dans les dernières années, il ne l'ait placé que dans l'ensemble des monogatari, bien que là même, certaines remarques invitent l'étudiant à lui accorder une attention toute particulière en le lisant jour et nuit. C'est cependant l'importance objective des travaux qu'il lui a consacrés qui nous permet de dire que le roman n'est second qu'à la dyade formée par le Kojiki et le Nihonshoki. Troisième point, en forçant quelque peu le trait et en cédant au plaisir de la facilité, nous pourrions dire que dans sa courbe de vie philologique, Norinaga est passé du mono du Genji Monogatari au koto du Kojiki, titre qu'il lisait le plus souvent en lecture puriste, d'ailleurs le Kojiki, l'appelait Furukoto Bumi. Nous le voyons d'ailleurs remplacé dans le titre de 20 de ses ouvrages Mono par Koto. Enfin, je ne peux pas insister là-dessus. La comparaison des deux termes mono et koto étant presque un parcours obligé de la réflexion philologique japonaise moderne, aussi bien au Japon qu'hors du Japon, il sera impossible de la résumer ici. Disons seulement que si on a généralement bien conscience de ce que koto peut signifier, puisse signifier mot et chose, alors que mono désigne plus spécialement l'objet concret, on a tendance à laisser de côté les nuances importantes. En particulier que « koto » signifie « événement » aussi bien que « chose ». Et également le fait que « le fait », il signifie aussi « le fouet », le fait, voire le concept, mais jamais la chose au sens concret que l'on prête le plus souvent à « mono », ce qui est souvent, mais non toujours vrai pour « mono ». Alors évidemment, il sera intéressant de faire l'étymologie de cette chose et en nous tournant de façon primordiale vers le coréen, puisqu'on a la chance d'avoir une parenté possible, probable, entre le japonais koto et le coréen kot, n'est-ce pas, qui s'écrirait kos, mais qu'on prononce kot, et elle est tout à fait probable. Il y a une autre étymologie qui avait été suggérée par Roy Andrew Miller, qui est encore plus séduisante, mais que je ne peux malheureusement pas suivre. Mais vous verrez à quel point elle est séduisante si je vous dis qu'il voit dans koto, apparu sous deux formes au Japon, un même mot, alors altaïque selon sa pensée, et même spécialement resté vivant dans le mongol, n'est-ce pas, le hutu mongol, le hutu que nous avons dans hutuktu, par exemple, qui est la puissance vitale, la puissance magique, n'est-ce pas. Donc koto voulant dire désignant avant tout le kotodama, c'est-à-dire la force, la force, l'efficace du langage. Et il va même jusqu'à dire que le mot a été importé par deux fois au Japon, une première fois sous la forme antique, archaïque de koto, une deuxième fois sous la forme plus moderne de hoto dans hotoke. N'est-ce pas ? Donc nous aurions un lien entre koto et Bouddha, ce qui bien sûr m'enchante, mais malheureusement je dois ne pas céder à la tentation. C'est une hypothèse tout à fait farfelue, mais évidemment la relation avec le code coréen est beaucoup plus importante. En revanche, les tentatives d'explication par le coréen de mono me laissent tout à fait froid, surtout que donc on prêterait à mono un radical mot qui serait le même mot, c'est M-O-T, que les formes interrogatives coréennes en mu, n'est-ce pas, muot, muot, muot. Alors on pourrait s'amuser à dire que muot, ce serait mukot, n'est-ce pas, quelle chose, et qui impliquerait une fonction qui serait intéressante dans la mesure où elle donnerait une fonction grammaticale dès le début avant de désigner un objet concret. Mono désignerait une relation grammaticale, comme vous le voyez, de la façon dont je vous ai expliqué mono no aware, cela m'arrangerait grandement aussi, mais j'ai beaucoup de mal à aller jusque là. Donc pour koto, il y a bien un rapprochement possible avec le coréen, y compris d'ailleurs dans la fonction grammaticale kot en coréen suivant un verbe, n'est-ce pas, enfin une forme déterminée du verbe indique la même chose, le fait de faire quelque chose, c'est un abstractif aussi. Et évidemment j'ai fait allusion tout à l'heure à mono dans le sens de bambutsu. Mono no aware pourrait être bambutsu shujo no jihi. Mais ça, je ne vais pas aller jusque-là non plus. Donc, c'est dans ce sens prédominant de parole que Nolinaga trouve l'axe de sa réflexion qui l'entraîne vers le Kojiki. Il souligne bien sûr la miraculeuse ambiguïté du terme, signifiant à la fois pour lui le mot et la chose qu'il désigne, unique dualité de vocabulaire dans laquelle se reflète l'essence même du Yamato Gokoro et qui fait que lire les textes fondateurs japonais, en particulier le livre des choses ou des paroles anciennes, Furukoto Bumi peut vouloir dire les deux, n'est-ce pas, c'est avoir accès directement à la source de ce verbe qui irrigue plus tard les poèmes du Manyoshu, ceux du Kokinshu, avant de se cristalliser dans le Genji Monogatari. Quatrième point, donc, comme pour le cas de Yamato Damashi, on s'attendrait à ce que Norinaga fît le plus grand cas de la notion de Kotodama, âme des mots, avec le tama qui a aussi le sens d'âme. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'il utilise très souvent tama, tama no gushi, tama no kushige, etc., qui veut dire le jade, l'objet précieux, l'objet précieux, la perle, etc. Mais il l'utilise aussi très certainement dans ce sens spirituel, en quelque sorte. Donc c'est un terme, ce kotodama, qui se trouve déjà dans le Manyoshu, et est directement relié à la notion de koto comme chose-parole, nommer la chose revenant à la susciter ou à la manipuler. C'est du moins ce à quoi l'on s'attendrait à en juger par ses successeurs, et singulièrement dans le nationalisme japonais, où la notion de kotodama joue effectivement un grand rôle dans la promotion du japonais. Il est vrai, dans la difficile lutte contre l'idée de plus en plus envahissante, que le Japon devait avoir recours à une langue occidentale, l'idée selon laquelle le Japon devrait avoir recours à une langue occidentale, l'anglais le plus souvent, s'il entendait avoir un rôle géopolitique significatif. Donc l'exaspération du sens de Kotodama est une sorte de réponse à l'invasion. Vous savez bien qu'il y a eu des tentatives, et il y a toujours des tentatives, de faire de l'anglais la langue officielle du Japon, et on ne peut voir qu'une réaction assez normale, même si elle n'est pas rationnellement étayée, à ces pressions. Mais ici encore, il n'en est rien chez Norinaga, on ne trouve pas ce rôle. Et comme dans le cas de Mononaware, le terme est sans aucun doute important chez lui, mais selon son propos originel et constant de philologue. La preuve en est, comme nous l'avons vu à l'avant-dernière leçon, le poème numéro 102 de sa centurie des Hallebardes précieuses, n'est-ce pas, le Tamaboko Hyakushu, où il donne du terme une définition qui montre à quel point il est fondamental dans sa vision langagière, mais qui serait probablement décevante pour ceux qui entendraient faire de ce concept un instrument politique plus opérationnel. Je répète ce poème. « Les pensées qui nous tourmentent, mises en poème, s'apaisent, en preuve certaine de l'heureuse efficace de l'esprit de la parole. » Dans cette pièce qui condense quelques-uns des termes clés du locus classicus concernant le Kotodama et qui figure dans le Manyoshu, Norinaga lui donne son vrai sens et sa vraie portée selon le philologue invétéré qu'il est. L'efficacité de la parole japonaise se manifeste, et n'oublions pas que le shirushi, qui signifie qui est ici dans le sens de preuve certaine, c'est aussi le signe divin, le miracle et le signe envoyé par les dieux à l'homme. La preuve miraculeuse de l'efficacité langagière du japonais est l'apaisement que la poésie confère à l'esprit. On est très loin du militarisme japonais, qui a eu recours à quelques idées de Norinaga. Ce disant, Norinaga ne fait rien d'autre que de répéter de façon plus ramassée le début de la préface japonaise du Kokin Wakashu de Kinotsu Dayuki. On est encore une fois dans cette parfaite continuité japonaise dès le début de parallélisme du chinois et du japonais, et le japonais apportant pour les japonais une efficacité esthétique en quelque sorte. On imagine que ce n'est pas de cette façon que les turiféraires du Kotodama voudraient voir exalter ce concept. Mais Norinaga est fidèle à lui-même. Le Kotodama est le support du Mononaware, une expression littéraire qui permet de communiquer au lecteur l'émotion du texte et par là même de purifier leur cœur, puisque la mise en parole permet d'en équilibrer les mouvements désordonnés. Un cinquième point, donc, dans le sillage de Koto apparaît un autre terme fondamental pour Norinaga, un terme que l'on est trop habitué à considérer en soi sans tenir compte de sa généalogie, le terme de Makoto, le vrai et le réel, mais aussi le sincère et le loyal, qualifiant l'existence et la morale. Nous avons vu dans le cours sur le Genji que l'interrogation principale des bons moines qui exécutèrent l'office pour le salut de Dame Murasaki dans le no Genji Kuyo, l'offrande au Genji, était de savoir si l'histoire était ou non réelle, vraie, makoto, si elle concernait des personnages ayant réellement existé. La question de la vérité de la parole, le véridique, véridicus, est tout aussi centrale pour Norinaga. Mais ici encore, il y répond par la théorie, théorie au sens de contemplation, littéraire, en se fondant sur l'étymologie. Et n'oubliez pas qu'en latin, étymologie, c'est « veri locium », ce qui dit le vrai, traduction littérale du grec, se fondant sur l'étymologie ou l'analyse de Makoto, parole vraie. La vérité du roman repose sur son usage de la langue japonaise qui véhicule le vrai. Et la vérité du verbe est celle du roman, Monogatari. Il réside dans l'intention profonde, originelle, le honi, de la romancière, maîtresse de la parole. Hijiri, la religieuse thaumaturge. Mais cette véridicité du roman a un support bien plus fondamental, qui est la véridicité des livres saints, Mifumi, à commencer par le Furukotobumi, le Kojiki. Si Makoto peut signifier aussi bien fait réel que parole vraie, cette distinction ne se fait que dans les langues autres que le japonais. À l'intérieur de cette langue, les deux sens sont indissociables, la parole et le fait qu'elle exprime. Mais encore une fois, cette réalité n'est que littéraire et les conséquences morales qu'elle implique dans la conduite humaine ne sortira pas de cette dimension. Et on voit aussi à quel point est importante la mythologie qui est véhiculée par le Kojiki, une parole de vérité qui fait que cette généalogie des dieux devient vraie dans le fait même qu'elle constitue la voie, Makoto no Michi, la voie véritable qui est celle de la conduite japonaise, la conduite inconsciente, naturelle, onozukara, n'est-ce pas, comme il est dit plusieurs reprises, kamunagara, la conduite divine, en quelque sorte, conforme aux dieux du japonais. Mais par quoi cette parole vraie, originale et primordiale est-elle portée au fil des générations depuis la création du monde, et même avant celle-ci? C'est le rôle de la voix, Michi. Il est plaisant de voir Norinaga reconnaître à demi-mot, non sans quelques réticences, que ce qui souligne la ressemblance entre son idée de la voix et ce qu'en dit ou n'en dit pas la Haute Zeu dans le Tao Te Ching n'ont peut-être pas tout à fait tort. Il attribue cela au hasard. Dans les montagnes de livres écrits de par le monde, il est inévitable que certains esprits se rencontrent. Mais il n'y a pas pour autant d'influence de l'un sur l'autre. Donc, Lao Tzu n'a pas influencé Norinaga, mais dans l'idée de Norinaga, c'est lui qui n'aurait pas influencé Lao Tzu, sans doute. Nous ne sommes pas obligés de le croire. Il est certain que Norinaga se rencontre avec Lao Tzu dans son refus de toute affirmation positive sur le contenu de la voix, de sa voix. Il invoque pour cet apophatisme le célèbre vers du Manyoshu sur le Kotodama, où le Japon est décrit comme le pays où l'on n'élève pas la voix, Koto Agesenu. Nous l'avons dit la dernière fois aussi. Là encore, il réinterprète à sa convenance les termes les plus polis par la tradition, car sa définition en creux de la voix se fait en délimitant les contours extérieurs, ce qu'elle n'est pas. La voix n'a rien à voir avec les voix chinoises, continentales, qui incluent bien sûr le bouddhisme. Ce sont des doctrines marquées par l'artifice rhétorique qu'il appelle le plus souvent Sakashila. Elles sont marquées par la diversité qu'il décrit ironiquement par l'adjectif formé par le redoublement du mot voix Michi Michishi, et que nous traduisons ici par académisme, comme dans l'expression Michi Michishiki Tokigoto. Ces voix ne sont au mieux que des divergences, des dégénérescences, des sentiers de traverse, Eda Michi, au regard de la voix originelle, Motonomichi, qui est celle partant directement des dieux. Il donne donc assez logiquement le sens de proférer des énoncés, des affirmations, se livrer à des débats ou discussions au verbe koto agesu, un sens bien moderne qu'il n'avait pas dans son usage antique, mais qui est très commode pour exprimer le dévoiement de la parole qui a affecté les voix étrangères, totsukuni, no michi. Il se refuse même à donner au mot michi le sens abstrait qu'il a à cause du chinois. Il affirme que le sens premier en japonais est tout simplement celui du chemin qui mène quelque part, Mono ni Yukumichi. Mais bien qu'il s'y refuse, Norinaga ne peut cependant s'empêcher complètement d'affirmer quelque chose de cette voie. Et ici encore, la sinologie est au cœur de cette fusion sémantique. Car depuis Dogen, qui a introduit dans la langue japonaise, dans les milieux bouddhiques tout au moins, le sens moderne chinois de « dire » que possède le caractère « tao » en plus du sens de « michi », la lecture explicative « koto » parole, dit, pour « do » en plus de « michi » est devenue courante, et plus encore au XVIIIe siècle, avec la mode populaire des réécritures en japonais des grands romans chinois des Ming et des Qing, où le caractère « do » est utilisé tel quel, accompagné des syllabes japonaises « yu », c'est-à-dire « dire ». Cette glosse perpétuelle ne rend que plus facile pour Norinaga de reprendre à son compte une locution déjà bien utilisée avant lui, mais qui va trouver sous son pinceau et dans sa postérité une nouvelle fortune. Septième point, Norinaga, enfin septième degré de cette voie encore que nous parcourons pour la dernière fois, Norinaga, en effet, tout en refusant toute définition de la voie, qui est malgré tout le terme fondamental qui définit sa quête philologique, la qualifie volontiers en y ajoutant le déterminant « makoto » pour former l'expression de « makoto no michi » que l'on peut traduire par « voie véritable », sens obvi, mais dont nous avons vu que le sens que lui confère Norinaga est bien plus riche. Il conviendrait le plus souvent de le traduire par « voie de la parole véritable ». Et le terme « michi », quand il est utilisé seul par Norinaga pour désigner la voie de l'Antiquité japonaise, peut être considéré comme l'abréviation de cette locution complète. Cette voie, comme il l'affirme à plusieurs reprises, prend naissance dans le monde des dieux, voire avant les dieux, est à la fois véritable et fondée sur la parole. Qui naît aussi dans le monde divin et dont l'expression en ce monde est la langue japonaise. Ici encore, nous ne pouvons que relever encore une fois la ressemblance avec Tominaga Nakamoto, qui, dans son Okina no Fumi, utilise systématiquement le terme Makoto no Michi pour désigner ainsi aussi la seule vraie voie parmi les voies, tout en s'en prenant manifestement au sens moral et politique, ce que ne fait pas Norinaga. Si en effet la voie est pour lui transmise par la lignée impériale solaire, elle ne constitue que très secondairement et par illusion un moyen de gouverner les hommes, étant en cela radicalement différente de la voie des confucianistes, dont Nakamoto reste malgré tout imprégné. En huitième, donc, en tant que voie de la parole véritable, la voie trouve naturellement un mode d'expression idéal dans la poésie japonaise. Bien sûr, donné aux hommes par les dieux eux-mêmes, au contraire de la poésie chinoise, qui est de la fêterie pure et simple pour lui. C'est donc la poésie japonaise Yamato Uta, ou Uta tout court, terme qu'emploie dans ses textes Norinaga, de préférence à Waka, pour des raisons compréhensibles, qui assure tout au long de l'histoire du royaume la continuité dans la transmission de la voix. C'est pour cette raison que Norinaga reprend à son compte l'ancienne expression remontant au moins au XIIe siècle de Uta no Michi, de voix de la poésie, qui était mise alors en parallèle et sur le même plan que la voix de Bouddha, Hotoke no Michi, ce qui, en prononciation sino-japonaise, donne l'équation Kado égale Butsudo, voix Uta no Michi, voix de la poésie, égale Butsudo, Hotoke no Michi, c'est la voix de Bouddha, le bouddhisme. Mais à la place de la voix de Bouddha, Norinaga rétablit, pour le dire selon sa vision, l'équation originelle qui avait été dévoyée sous l'influence du continent, équation originelle qui est entre la voix de la poésie et la voix des dieux. Uta no Michi égale Kami no Michi, nous l'avons vu, donc Kado égale Shinto. Ce qu'il fait en réalité est dans la droite ligne de ce qu'il a fait précédemment, en décalant du sino-japonais au japonais des concepts établis depuis des siècles, il remet encore une fois son propos dans le domaine de la critique littéraire. Car ses idées sur la voie de la poésie se relient directement à sa lecture du Genji Monogatari. À propos du Mono no Aware, dont nous avons vu la place centrale qu'il lui assigne dans sa lecture, il affirme en effet « L'empathie est le fondement de la poésie et du roman. Uta to Monogatari no moto naru Mono no Aware. Uta et Monogatari, Monogatari ont pour motto, comme fondement, comme base, Mononohare, l'empathie, la compassion entre les êtres. Certes, là aussi une idée ancienne, mais qu'il radicalise en définissant le Genji comme un Uta Monogatari au sens le plus littéral, un roman-poème, et non pas un roman qui contienne des poèmes ou qui constitue le contexte de poèmes, comme l'Issei Monogatari. Nous avons déjà remarqué l'an dernier ce que le style du Genji présentait de singulier de par les éléments poétiques que la romancière inclut dans la prose même, en plus évidemment des 800 poèmes qui constellent le roman. C'est-à-dire que l'appellation de Uta Monogatari est fort appropriée. Nous voyons ainsi combien la pensée littéraire et les représentations philosophico-religieuses au sens le plus large de Norinaga se trouvent parfaitement intégrées dans cette vision qui résulte d'un itinéraire allant de l'étude du Genji Monogatari au Kojiki. Tout d'abord en débouddhisant, si j'ose dire, le cœur du roman, en le définissant comme l'expression d'une empathie qui décalque de façon habile la notion bouddhique de compassion. Il a pu arracher ainsi cette œuvre à la sphère sino-bouddhique. Ensuite, en allant chercher la légitimité de l'expression du Mononohare, désormais libre d'attache continentale dans son esprit, plus haut dans les sources japonaises, il la trouva dans le concept si richement ambigu de koto, le fait-parole qui est l'essence de kotoba, du mot de la parole concrète, comme expression particulière du koto qui serait le langage. Nous n'avons pas du tout ici l'intention de suivre une terminologie saussurienne quelconque, sans doute bien. Donc le kotoba, kotoba c'est cette parole réalisée dont la nuance phénoménale comme opposée à l'essence est précisée dans la métaphore poétique koto no ha, feuille du langage. Nous ne pouvons que renvoyer à nos cours précédents. Enchâssé dans l'expression « makoto », donc « vérité du langage », la parole, le verbe, pourrions-nous aller jusqu'à dire, ne fait qu'un avec la voix, qui ne sera pas précisé autrement, mais qui se trouve en tant que tel exprimé au mieux dans le poème, et donc dans le Genji, qui est le modèle de du Uta Monogatari, du roman-poème. Grâce à ce circuit fermé, Norinaga parvient à rendre parfaitement autonome la tradition religieuse et littéraire du Japon, ce qui est son but foncier en tant que philologue japonais, Kokugakusha. Je rappelle que Kokugakusha, qu'on traduit de façon tout à fait impertinente dans les deux sens, dans les pays anglo-saxons par nativiste, etc., s'oppose au Japon à Wagakusha, à Kangakusha, n'est-ce pas ? Kokugakusha, parfois pour synonyme Wagakusha, spécialiste des études japonaises, à l'opposé du Kangakusha, le spécialiste des études chinoises. C'est donc le philologue japonais. La neuvième étape de ce parcours, il y parvient aussi, nous l'avons dit, grâce à l'évacuation de la question du mal et de la responsabilité humaine, en faisant remonter l'origine directement au dieu, au Magatsubi no Kami. Il dégage l'être humain de toute responsabilité à ce sujet, contrairement aux voies de traverse continentale qui, en imputant à l'homme la cause de ses maux, lui gâche la vie, alors qu'il ne peut en rien y remédier. Le mieux qu'il puisse faire, l'homme, est de s'en tenir aux instructions, minori, du pouvoir impérial, qui transmet la voie et qui doit être suivi en tant que tel. Cela explique donc l'amoralisme du Genji. La voie du pouvoir impérial, donc Okite, qu'il faudrait distinguer de Nori, mais on a vu qu'il a utilisé plusieurs fois Okite, mais nous avons aussi Minori, en une sorte de rappel du terme bouddhique, mais moi, nous n'avons pas le temps de revenir là-dessus. Le mieux qu'il puisse faire, donc, l'homme, est de s'en tenir aux instructions Minori du pouvoir impérial qui se transmettent dans les Okite. Et il transmet la voie et doit être suivi en tant que tel. Cela explique donc l'amoralisme du Genji. Murasaki Shikibu ne fait que décrire le monde. Le seul jugement personnel qu'il se permette est d'ordre esthétique. C'est son admiration souvent répétée pour la beauté et l'élégance du prince. C'est où Norinaga voit un argument justement pour cet amoralisme. Le corollaire de cette idée, clairement exprimé dans un passage célèbre du Naobi no Mitama, et que seule la vie, nous n'avons pas le temps de le voir, ils auraient été assez intéressants, mais de parler de la conception de l'au-delà par Motori no Linaga, qui est vraiment une conception tout à fait pessimiste, n'est-ce pas, le monde de l'au-delà, le monde des morts, c'est, reprenant l'image de la pourriture, de la souillure rapportée par Izanagi de sa tentative de libérer Izanami de ce monde, même les dieux meurent, n'est-ce pas, vont dans ce monde infernal qui est une horreur esthétique d'ailleurs. Donc, ce n'est que obscurité et pourriture, et dont Izanagi doit se purifier. Cette idée de Naobi, n'est-ce pas, aussi la purification est derrière cela. Donc, pour Norinaga, il n'y a pas d'arrière-monde, il n'y a pas d'au-delà. Et donc, on n'a pas à s'occuper d'améliorer son sort post-mortem, comme ce qui préoccupe tant les bouddhistes et les personnes de quelques autres religions, n'est-ce pas, la post-mortem, quand on est mort, il reprend le thème épicurien sans le savoir, n'est-ce pas. Bon, nous n'avons qu'une vie, il faut la vivre bellement, en quelque sorte, et après, eh bien, ça ne nous concerne plus parce qu'on n'est plus là. C'est le dixième point. Nous l'avons vu, la notion de Makoto, compris comme fait vrai, parole vraie, joue un rôle primordial chez Norinaga pour définir la voie dont il fait l'essence de sa quête philologique. Alors c'est là qu'il y a encore quelque chose de très intéressant. Je ne donne pas les caractères, mais tout cela... Vous trouverez aussi quelques réflexions dans ce que je vous donne ici. Il note ce terme dans sinogramme donc de deux façons, selon qu'il veuille mettre l'accent sur l'un ou l'autre des deux sens. Le vrai événement, l'événement vrai, Makoto, qui s'écrirait donc avec voulant dire vrai, et Ji, le Ji de Jijitsu, qui veut dire la chose ou l'événement, ou bien il l'écrit parfois avec Shin Makoto et le caractère sino-japonais Gen, qu'on peut dire aussi Gon, n'est-ce pas, qui veut dire Iyu et qui veut dire aussi la parole, qu'il lit très souvent Koto. Donc Makoto peut s'écrire aussi Shingen, et qu'on lirait dans le bouddhisme, et que tout japonais, même maintenant, lirait avant tout Shingon, n'est-ce pas. C'est-à-dire, donc vous voyez très bien où je veux en venir, n'est-ce pas. Il n'échappe bien sûr à personne que la seconde graphie est identique à celle de Shingon, traduction sino-japonaise du sanskrit mantra, souvent confondu avec dharani, et selon une logique langagière développée par Norinaga, dont nous pensons avoir mis en lumière de nombreux exemples en raison de l'influence qu'exerça sur lui Keichu, moine de l'école Shingon, qui étudia aussi en philologue des formules sanskrites utilisées en liturgie. C'est Keichu qui, le premier, utilise l'expression magokoro et makoto, donc en lettres, qu'il écrit en lettres en syllabes japonaises, en kana, mais qu'il glose ensuite en shinjin shingon, en sinogramme. C'est-à-dire, chez Keichu, c'est évident, bien sûr, qu'il a le terme de shingon derrière la tête. Et ça fait d'ailleurs deux composés bouddhiques, shinjin, le vrai état mental, le vrai manas, et la vraie parole. Alors, Michele Mara, encore lui, je pense que voilà, dans ce, oui, il utilise le mot nativiste qui est fort malheureux, mais enfin, dans cet article, parle vraiment de Kotodama no Shingon, en attribuant l'expression à Norinaga. Je ne trouve pas explicitement le terme Shingon. Bien sûr, c'est lui Makoto. Mais est-ce que Norinaga lui-même le lirait Shingon, ça serait trop beau, n'est-ce pas? Je n'aurais même pas la peine de me fatiguer à essayer de vous le démontrer. Ça, parce que, donc l'arrière-plan bouddhique de Shingon, et si on regarde la généalogie de méthode de Norinaga, elle est évidente. Si on regarde le développement, comme j'essaie de vous le décrire pas à pas, de la pensée de Norinaga, unifiant les deux coteaux dans son enquête, c'est évident. il manque quand même il manque quand même l'expression définitive, l'identité définitive, mais vous voyez, elle est en filigrane. Et Michele Marra a été encore plus rapidement et presque sans insister dessus, ce qui est très amusant, enfin, dans cette identité. Donc, en tout cas, nous ne pouvons qu'être intrigués par cette superposition des deux dimensions, compréhensible chez Keitsu, mais beaucoup plus étonnante chez Norinaga, qui repousse en principe toute influence sino-bouddhique. Et pourtant, cette idée de l'efficacité intrinsèque de la langue japonaise est tout à fait dans la lignée de la pensée de l'ésotérisme bouddhique, pour qui toute manifestation langagière est une émanation des lettres germes primordiales, ainsi que nous l'avons vu dans le traité séminal de Kukai sur la réalité des phonèmes et des graphèmes, vous vous en souvenez, Shōji Jisōlon, qui a été le thème de l'un de nos cours. Nous pourrions même aller plus loin et estimer que la décision de Norinaga d'écrire sa centurie des hallebardes précieuses, Tamahoko ou Tamaboko no Hyakushu, qui s'affiche en surface comme un retour aux graphies du Kojiki et du Manyoshu, sous le signe donc du Makoto, renvoie aussi à l'écriture sinographique des Dharani. Dans le Sutra du Lotus, vous avez des Dharani, donc des formules salvifiques, des formules de protection bouddhique, qui sont absolument incompréhensibles parce qu'elles sont en caractère japonais, chinois, utilisées de façon purement phonétique pour transcrire des termes sanscrits. Mutatis mutandis, les poèmes en manyogana de Norinaga se présentent comme des Dharani aussi. Alors donc, ce serait une réponse shintoïste à la conception bouddhique apparue à la fin du XIIe siècle et formulée au XIIIe siècle comme Waka Soku Dharani. Là, nous sommes en plein paradoxe. En écrivant ces waka sous forme de en manyogana, Norinaga fait de véritables dharani. Et le waka a véritablement l'efficacité des shingon parce qu'il propage la voix de la parole véritable qu'est le japonais. Ici, il n'a plus besoin de le démontrer. Nous voyons ainsi, à la fin de l'histoire du Japon prémoderne, nous finissons en 1801, n'est-ce pas ? Les théories linguistiques indiennes, revues par les traducteurs chinois, réécrites par Kukai et développées par ses commentateurs ou émules jusqu'au début du XVIIe siècle, n'est-ce pas ? Jusqu'à Keishu, venir soutenir l'ultime étape du parcours hiéroglossique de la langue japonaise, étape où celle-ci est désormais conçue comme supérieure au chinois et à toutes les autres langues d'ailleurs. La courbe hiéroglossique semble en effet suivre les mêmes étapes dans les différentes aires culturelles, soumission, émulation, domination, retour. Point 11, les choses ne sont pas si simples, point 11 et dernier. Il serait pour le moins insuffisant de soutenir que Norinaga venait conclure les 11 siècles de la relation Wakan par l'effacement du chinois au profit du japonais. Sa pratique langagière démontre en effet tout le contraire. Son vocabulaire sur-japonisé et innovateur cache à peine des décalques sémantiques du chinois, y compris dans les expressions les plus abstraites. Nous en avons vu beaucoup d'exemples. Plus que ses prédécesseurs poètes qui se sont livrés de longue date à cet exercice, il utilise une langue parallèle que l'on ne peut qualifier de cryptée puisque son recours systématique au sinogramme, dont il ne cherche nullement à restreindre l'usage, il le développe même, dévoile sans détour sa méthode. Bien loin, comme l'on aurait pu s'y attendre et comme certains l'ont promené, surtout à partir de l'époque Meiji, d'associer l'idée de la suprématie du japonais à la suppression des sinogrammes, Norinaga, à l'instar de nombre de kokugakusha, s'y appuie au contraire davantage pour donner à son usage de la langue japonaise une plus grande liberté, garantie par le rôle de glose des sinogrammes, par le rôle de glose qu'ont les sinogrammes, et qui lève des ambiguïtés ou précise le sens des termes japonais. La séparation des langues ne se fait que grâce à un lien plus étroit encore entre les graphies. Et la centurie des hallebardes précieuses, donc, par son archaïsme graphique, devient ainsi le dernier mot de la relation langagière sino-japonaise, en parfaite illustration de son caractère inéluctable. Voici donc la fin de notre voyage chez Norinaga, qui aurait dû aussi être la fin de mon voyage au Collège de France, puisque ce cours aurait dû être la dernière de mon cycle. Mais par un miracle administratif sur lequel je ne reviendrai pas ici, je vais le prolonger de 2 années. Et bien heureusement d'ailleurs, parce que j'avais été obligé de faire un tri dans mes choix, et j'avais dû privilégier Nolinaga comme sorte d'apex. J'aurai la possibilité de faire un petit retour en arrière l'an prochain, je vous en laisse la surprise, et puis l'an d'après, si le coronavirus me laisse en vie, je finirai sur un philosophe contemporain du XXe siècle, qui sera le but, la tentative extraordinaire, grandiose et sans fruit pour l'instant, de rétablir cette relation au sein même de la philosophie moderne japonaise. Je vous remercie de votre patience cette année. J'espère que tous ceux qui m'écoutaient avant sont restés en suffisamment bonne santé pour m'écouter jusqu'à la fin, tout en regrettant qu'il n'ait pas l'occasion de faire autre chose par ce beau temps. Et je vous remercie. À l'année prochaine.